1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout, comme tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 18h. Émission un peu différente de celle que vous retrouvez d'habitude, puisqu'aujourd'hui c'est Champ Libre A, l'émission qui permet à notre invité, aujourd'hui Joanny Curtet, que je présenterai dans un instant, de nous faire entendre ses influences, les disques, livres qui l'ont bouleversé, qui ont profondément modifié sa vision du monde. Et c'est bien le cas lors d'une recherche de documents, une dizaine, à la bibliothèque des Champs Libres. Bonne émission. Vous savez, chers auditeurs, auditrices de Canal B, le dernier vendredi du mois, Le Grand Tout, eh bien, se transforme en Champ Libre A, ce moyen qu'on a trouvé dans ce partenariat avec la bibliothèque des Champs Libres, l'étage numéro 2. Je salue d'ailleurs Clarisse Mérour et Antoine Blanchet. Eh bien, ce moyen de faire se dévoiler nos invités à travers 10 documents qui sont censés représenter un petit peu leur évolution culturelle, artistique. Aujourd'hui, on retrouve Joanny Curtet. Bonjour Joanny.
Bonjour, bonjour à tous.
Joanny qui est musicien spécialisé dans le chant diphonique mongol. On appelle ça le homi.
Oui, homi.
Tu es aussi évidemment compositeur, ethnomusicologue et pédagogue, avec pas mal de voyages, je pense. On sait que la musique est un voyage, c'est un peu cliché de le dire, mais pour toi, c'est vrai, ça a été l'occasion de beaucoup de voyages vers, pourquoi pas, l'université du Delaware, vers la Mongolie, et pas que la capitale Oulan-Bator, tu es allé vraiment bien au-delà de ça pour rencontrer des maîtres de chant diphonique, et on va parler de tout ça, de toute ton évolution musicale. Comment toi tu te rends compte que la musique va avoir une place importante dans ta vie? À quel âge ça arrive ça?
En fait, ça arrive à l'adolescence, entre mes 12 et 13 ans. Ma mère était comédienne, mon père prof de piano et aussi compositeur de musique électroacoustique. Donc on peut dire que j'ai un peu baigné déjà dedans avant.
Prédisposé, oui.
Ouais, mais j'avais pas forcément envie avant ça de faire de la musique. Et en fait, je commence avec l'adolescence à écouter du rock, le rock des années 90 avec mon petit poste de radio dans ma chambre d'ado. Et donc je découvre Nirvana, Pearl Jam, les Smashing Pumpkins, les Breeders, enfin ce genre de son-là. Et puis plus tard un peu la pop rock et évidemment les Beatles et tous les sons des années 70 via mes parents qui écoutaient ça beaucoup, tout ce qui est passé à Woodstock, Jimi Hendrix, etc. Et j'étais fasciné et du coup j'avais envie de jouer de la guitare et chanter avec ma guitare. Donc mon père me dit, si tu vas prendre la guitare pour gagner du temps, vaut mieux faire du classique, t'auras plus de possibilités ensuite pour choisir un style. Donc je commence à prendre des cours de guitare en école de musique. Bon, je voyais pas l'intérêt d'aligner des gammes alors que j'avais des copains qui prenaient des cours privés et qui savaient déjà aligner quatre accords, les quatre accords magiques pour jouer tous les Beatles et puis l'histoire du rock ensuite. Et moi j'arrivais toujours pas à faire ça. Et voilà. Par contre je savais bien jouer de la guitare classique. Personne m'avait appris à chanter. Et du coup j'y allais moi-même à cœur joie. Et au collège tout le monde se foutait de ma gueule parce que je chantais à tue-tête comme une casserole. Et on m'a vite fait comprendre qu'il valait mieux me contenter de jouer de la guitare. Là je le dis très calmement aujourd'hui, je l'ai pas du tout vécu comme ça.
Donc tu n'es pas devenu le Billy Corgan du collège.
Non.
Mais c'est peut-être un bien finalement, parce que ça t'a permis d'aller ailleurs. On verra où par la suite de cette émission. On plonge donc dans ce souvenir de cette période un peu compliquée.
L'adolescence. Ouais, en Octavie, en chose du 43.
We'll be right back. Dans Chant Libre A, aujourd'hui, on parle avec Joanny Curtet qui nous rappelle peut-être, à certains d'entre nous, quelques souvenirs du fait qu'à l'adolescence, on va vite passer d'un style, d'un genre à l'autre, d'une époque à l'autre, et ça, c'était le cas avec toi aussi. On entendait à l'instant la musique jamaïcaine. C'est arrivé comment, ça, dans ta vie?
J'ai découvert d'abord plutôt le rock et toutes les sous-genres. Et puis ensuite, petit à petit, en arrivant au lycée, en fait, j'ai découvert un peu plus les sons world music, musique traditionnelle. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et le bon compromis entre le rock et la world music, c'était justement le reggae. C'était la grande époque aussi du renouveau, du reggae français, en fait, et de l'arrivée de... la découverte aussi du dub, le côté psychédélique de la chose, ça c'était le lien avec le rock des années 70 et le reggae. Du coup j'étais vraiment assez fasciné par cette musique. Et il y a aussi en fait, parce que j'ai eu un groupe de reggae pendant 10 ans qui s'appelait RSW, Rhythm Soundwise, des copains de lycée, mais avec qui on est allé quand même assez loin, et avec qui on a fait notamment des premières parties de groupes de reggae français comme Orange Street, Jim Murple Memorial à l'époque, et on commençait à tendre vers des influences dans lesquelles j'expérimentais déjà sur du dub, du chant diphonique mongol, parce que j'apprenais cette musique, vers un groupe qui m'a beaucoup marqué dès le collège en fait. Ça fait partie des premiers grands groupes de world music que j'ai vu sur scène, grosse claque, Lojo Triban. Et ça a été un fait marquant jusqu'à encore aujourd'hui. Ça a beaucoup nourri ensuite un certain esprit d'ouverture vers l'imaginaire en fait entre des influences rock, chansons françaises, world.
Au café de la marine, un marin danse à la dérive. Le souvenir des bordels de Marseille, des navires à l'équipage noir d'Amérique, des créoles partis de la Caraïbe, des mousses sénégalais. Au café de la marine, sur des airs de tambour fâchés, un grand marin roux de Cardiff danse des continents. Tous les bons dieux de cette tempête, tous les bons dieux de cette tempête, tous les bons dieux de cette tempête, tous les bons dieux de cette tempête.
Vous avez entendu consécutivement l'audio, qu'on a appelé l'audio tribal, qui s'appelle désormais simplement l'audio, le leader de Nipéan, qu'on croise encore de temps en temps sur des festivals comme le Grand Soufflet à Rennes. C'est le cas aussi d'ailleurs de Thierry, Titi Robin, qu'on a écouté juste à l'instant. On voit déjà l'envie d'aller écouter des musiques nomades, des musiques qui voyagent, qui ont voyagé. Est-ce que tu penses que la découverte de Titi Robin, là, vraiment, va t'emmener voyager jusqu'en Mongolie ?
J'étais déjà prédisposé par quelque chose que j'écoutais en parallèle, qui fait un peu le lien, en fait, entre mon parcours, mon apprentissage de guitariste, classique au départ, mais qui va devenir rock, reggae, world, en fait, beaucoup plus ouvert dans les années qui vont suivre. Adolescence, lycée, puis les débuts de mes années universitaires. Je parle de 1999, hein, c'est le siècle dernier. J'écoutais déjà en fait John McLaughlin et son fameux groupe Shakti, en fait, dans lequel il fusionnait toute l'émulsion de l'improvisation qu'on peut trouver dans le jazz, dans le cadre en fait très strict en fait et fascinant de l'improvisation de la musique hindoustanie, en fait, la musique classique de l'Inde du Nord. On avait à la fois voilà la guitare, l'influence de l'improvisation, la rencontre de l'Occident avec l'Orient, l'Asie, dans l'Inde, de Shakti. Et moi, j'avais envie, en fait, de chercher tout ça dans mon jeu de guitare. Alors, j'étais bien loin du résultat, puis je suis pas allé jusqu'à cette virtuosité guitaristique, en fait. J'ai jamais cherché la virtuosité. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, la profondeur des sons, est-ce que ces émotions-là, en fait, venues d'Asie, peuvent évoquer en nous, avec notre culture d'occidentaux, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai retrouvé dans quelque chose de plus simple, mais tout aussi exigeant chez Titi Robin, justement, dans une rencontre, en fait, qui fusionne vraiment. C'est pas juste du collage, en fait, où on plaque des synthétiseurs et puis on joue un thème trad. C'est vraiment une synthèse, en fait, bien digérée, en fait, bien assimilée de ce que peut être une musique traditionnelle, reprise dans un mode de jeu et un langage occidental, voyageur, en quelque sorte.
Bah, tu as cité un petit peu les Beatles, peut-être, que tu as pu écouter. Bon, bah, on sait que parmi les Beatles, il y avait George Harrison qui, lui aussi, arrivait à faire un peu la synthèse, pas juste plaquer de la musique indienne sur de la musique pop.
Complètement. Ça aussi, à l'époque, toutes les tentatives, en fait, ça fait partie historiquement des premières tentatives de world music, hein, on le dit, de ce qu'ont pu faire les Beatles et George Harrison, qui était un de mes Beatles favoris. Évidemment, ça m'a façonné.
On écoute en tout cas Shakti avec John McLaughlin, choisi par notre invité aujourd'hui dans Champ Libre A, saison 3, épisode 7, Joannie Curtet, dont on va parler aussi de ce beau projet Route Nomade, ses 20 ans d'ailleurs, et puis de quelques événements à venir. Ça sera pour la fin de l'émission tout à l'heure, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie de Joannie Curtet, évidemment, et pas seulement en Mongolie. n'a pas encore écouté véritablement de la musique au chant diphonique, de la musique de Mongolie, mais on va y arriver forcément avec Johnny Curtis. C'est obligatoire qu'on passe par là, c'est nécessaire, puisque c'est comme ça que tu t'exprimes en chantant avec le groupe mongol Yatra, qu'on a pu voir au Transmusical et puis qui était revenu jouer à l'Ubu par la suite. Et c'est pas comme ça que toi tu as découvert donc ce groupe qui mélangeait chant diphonique de Mongolie, de Touva même plutôt d'ailleurs.
Les Yatra sont des Touva.
Ils sont des Touva et musique occidentale dite punk rock. Comment toi tu as découvert ça ?
D'abord, donc quand j'étais ado et que tout le monde se moquait de moi, et ben j'ai cherché autre chose en fait à faire avec ma voix. Je me suis mis au beatbox. Tout le monde me disait d'arrêter parce que j'en faisais à la maison en cours. Donc ma mère et mes profs me disaient arrête. Et au bout d'un moment, on finit quand même par arrêter, même si à 13 ans on a envie d'en faire plus. Et un jour, ma famille me dit voilà, viens voir, il y a un gars qui fait un truc incroyable à la télé. Et donc là, je descends. Donc évidemment, il n'y avait pas encore internet. Hein. J'ai pas pu shazamer la chanson comme on dit, mais j'ai entendu et vu en fait quelqu'un qui s'appelle Tran Quang Hai, qui n'est autre en fait que l'une des personnes qui a créé ce terme de chant diphonique qu'on utilise tous aujourd'hui, qui était en train de faire une démonstration vocale et scientifique pour expliquer ce phénomène d'une personne qui produit plusieurs sons simultanément avec sa voix dans un chant très guttural en fait. Et j'étais absolument happé, fasciné par ce son, et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Donc à l'époque j'ai pas du tout retenu le nom de la personne, ce qu'il a expliqué, j'avais 13 ans, hein. Et par contre le son m'a complètement fasciné et j'ai eu envie de le reproduire. Donc je peux pas dire que j'ai appris en autodidacte au départ, mais je me suis amusé à reproduire ces sonorités. Et c'est plus tard, en arrivant au lycée, que j'ai découvert des enregistrements en fait, où on nous expliquait dans les musiques du monde comment, aux antipodes de notre culture, on peut aussi utiliser sa voix. Donc on parle souvent du katajak des femmes inuites et puis du homi, du chant diphonique mongol. Donc là, j'ai pu mettre vraiment des mots, les bons mots-clés pour retrouver des documents sonores, audiovisuels, lire des choses. Et c'est en arrivant à Rennes 2, en fait, au département musique, que j'ai commencé vraiment à me documenter très sérieusement, à découvrir aussi ce qu'était l'ethnomusicologie, que j'ai tout de suite envisagé comme un champ des possibles pour aller découvrir cette musique et par moi-même, du coup, assouvir cette envie d'apprendre en fait et de plus être en solo à essayer de me demander diable comment ça marche en fait avec sa voix. Et donc là je commençais à collecter pas mal d'enregistrements dont voilà les Unurtu, les Pink Floyd du chant diphonique, mais aussi des enregistrements de Mongolie. Donc il y avait Touva Mongolie, et puis là dedans quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui faisait la synthèse un peu de mes influences adolescentes, c'était Yatra, parce qu'ils avaient à la fois l'inspiration trad et le côté rock punk en fait dans ces sons. Donc j'écoutais ça en boucle.
Quand même, petit point vocabulaire, si on va à l'étymologie, l'ethnomusicologie, c'est simple finalement, c'est l'étude des musiques d'ailleurs.
Exactement, et ailleurs ça peut être la musique qu'écoute son voisin de palier. Je dis ça parce que souvent on nous dit qu'il faut aller très loin pour faire de l'ethnomusicologie géographiquement. Pas forcément en fait, c'est s'intéresser à la culture musicale des autres, et ensuite ça ouvre tout un champ de possibles dans la recherche, c'est extraordinaire.
Le plus célèbre bien sûr des ethnomusicologues, c'est Alan Lomax, qui a fait quelques centaines de kilomètres. Il a fait un peu plus que juste aller voir son voisin, mais son voisin dans son pays quoi.
Complètement, ça fait partie des collectages, on va dire, les mieux diffusés et valorisés, pour faire le lien avec ce qu'on connaît dans les musiques actuelles, avec ces collectages notamment autour du blues, mais pas que, il y en a eu d'autres. Et après il y en a eu beaucoup plus du côté vraiment du monde académique, et il y a eu tous les collectages édités avec le département d'ethnomusicologie du musée de l'homme, les fameux coffrets anthologiques Voix du monde, où il y a des sonorités vocales incroyables, complètement méconnues, moi que j'utilise encore dans mes cours, parce que j'enseigne l'ethnomusicologie en charge de cours à Rennes 2. C'est un univers assez fascinant en fait, découvrir la culture des autres et en fait se poser pour moi deux questions fondamentales qui peuvent ensuite nous driver dans toute une vie de recherche ou de rapport à la musique plus largement. Pour moi, il y a à la fois la recherche ethnomusicologique, mais aussi la pratique de la musique, et je me nourris en fait des deux à la fois en permanence. C'est se demander en fait pourquoi ces gens-là font de la musique et comment la font-ils. Et à partir de là, dans 10 ans, on en reparle encore.
Tu nous diras, oui, un début d'une réponse à la question que tu posais juste à l'instant, si tu veux bien. Une fois qu'on a entendu ce titre de Yatra sur un album, qui est peut-être l'album en provenance d'artistes de Touva qui a été le plus diffusé en Europe occidentale. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à découvrir encore, et tu œuvres pour ça d'ailleurs avec les Routes Nomades.
Bien sûr,
on écoute Yatra. On se balade dans les rayonnages de la bibliothèque des Champs Libres à l'étage 2 et en compagnie de Joanie Curté, notre invitée aujourd'hui. Et tu posais la question, et tu vas peut-être y répondre de manière parcellaire comme ça, pourquoi chantent-ils comme ils chantent et comment ils le font surtout ?
C'est une bonne question. Moi, je me la suis posée pendant au moins 10 ans quand j'ai fait mon master puis ma thèse de doctorat en ethnomusicologie à Rennes 2. J'ai fait une thèse sur la transmission et l'histoire de cette musique. Donc on pourrait en parler pendant des heures, évidemment, mais pour vous éviter de lire 615 pages, je vais aller à l'essentiel. Ce que je vais expliquer là, j'ai mis une dizaine d'années en fait à le comprendre. Déjà, les Mongols ne considèrent pas le homi comme du chant. Donc homi, littéralement, ça veut dire pharynx, une partie de l'appareil phonatoire qu'on active en fait, sur laquelle on va presser d'une façon particulière pour obtenir un bourdon vocal dit guttural. Ça nous permet en fait d'enrichir notre voix et de mettre en avant, de par cette gutturalité, une présence harmonique et fréquentielle importante dans laquelle en fait on va sculpter le son pour mettre en avant des mélodies d'harmonique et des présences de résonance en fait particulières. Donc on dit que c'est une personne qui, à elle seule, fait plusieurs sons simultanément avec sa voix. On a un bourdon vocal qui a une certaine épaisseur, c'est pas juste une note, c'est très riche. Puis une mélodie d'harmonique qui, elle, va mettre en avant quelque chose de l'ordre du répertoire, de l'improvisation, de l'imitation des sons de la nature, parce que cette musique vient aussi de là. Et puis des résonances, en fait, qui, pour certains ingésons, peuvent sonner comme parasites et ils vont nous couper au-delà des 15 000 Hz. Surtout pas, justement, il y a des sonorités qui ressemblent au buzz d'un néon qui déconne ou d'une machine à café, qui, en fait, sont une présence fréquentielle importante pour le goût culturel et les jugements esthétiques de cette musique. Si on n'a pas ces sonorités là au-delà des 15 000 Hz, en fait, en gros, ça sonne pas Touva, ça sonne pas mongol, et les Mongols vont nous dire « Ah ouais, tu fais ça comme un occidental », c'est-à-dire avec une voix claire, peu gutturalisée, où on va entendre parfaitement deux notes, la note du bourdon et celle à partir de laquelle on va déployer toute une mélodie d'harmonique. Donc on n'entend que deux choses. Ça, c'est la vision occidentale et très cartésienne de cette musique dans la culture, dans la conception autochtone en fait de cette musique. C'est bien plus que ça, c'est une musique de timbre. Au départ, quand on apprend cette musique, on se moque de savoir comment on va pouvoir interpréter et ornementer une mélodie dans le temps. Ça, c'est nous, plutôt notre mode d'écoute typiquement occidental. Les Mongols, les Touva vont entendre cette musique dans l'instant T, celui du timbre, c'est-à-dire comme elle sonne, avec notre identité à nous, dans l'espace dans lequel on est, en connexion avec l'environnement et la nature. Et en gros, c'est comme si on faisait une tache d'encre ou une tache de peinture en art contemporain, et on assume complètement la coloration et la matière qu'on vient de produire dans l'instant T, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc du coup, cette musique, elle est très spontanée, parce que d'un moment à l'autre, d'un interprète à l'autre, ça n'aura rien à voir, même si on peut avoir acquis une certaine technique, une certaine connaissance. Et donc c'est lié du coup au timbre vocal de sa propre voix, qu'on a appris à façonner dans les codes de la tradition. C'est lié à l'imitation des sons de la nature, ça c'est les légendes qui le disent, l'imitation des différents cours d'eau, les cascades, le souffle du vent, l'écho dans les montagnes, le bruissement dans les roseaux au bord des lacs, les chants d'oiseaux. Il y a toutes sortes de dérivés de sons comme ça dans lesquels on a à la fois quelque chose qui bourdonne. Si on pense à l'écoulement de l'eau, le son du souffle du vent, Point de Saint-Mathieu plutôt, hein, pas un petit vent de printemps, un truc qui décoiffe un maximum, bah, c'est un son qui est complexe, qui est très riche, dans lequel il y a plusieurs choses en même temps. On peut entendre une basse, on peut entendre des aigus, on peut entendre des résonances. Pourquoi les Mongols font ça? C'est aussi parce qu'ils ont une vision du monde qui est très particulière, qui est verticale. Ils croient en un monde à la fois souterrain, terrestre et céleste, dans lequel les humains et le monde des esprits en fait cohabitent et circulent. Et en fait, cette vision du monde très verticale, eh bien, se retrouve dans la construction même de cette musique. Et je dirais pas que cette musique diphonique vocale, mais cette musique traditionnelle mongole en général, puisque avec le jeu de la vielle à tête de cheval, le jeu des tofchours, les luttes à deux cordes, le jeu de la guimbarde, l'arc musical et plein d'autres instruments qu'on retrouve dans l'instrumentarium trad des Mongols, des Touva, eh bien, il y a toujours un bourdon qui est joué, que ce soit vocal ou instrumental, ou toujours ou très souvent. Simultanément, sur la chanterelle de l'instrument, un jeu mélodico-rythmique, et puis le fait de jouer tout ça ensemble en continu, ça génère de la résonance, en fait, une matière particulière. Et donc, il n'y a pas que la diphonie vocale qui existe, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Et tout ça, c'est en fait la reproduction de cette vision verticale du monde dans le monde sonore, dans l'expression musicale, artistique des Mongols en fait. Et je peux vous montrer le style grave pour faire en écho aux sonorités les plus profondes de la Mongolie, en lien avec la cascade, la montagne, ce qu'on appelle le Khalkhila, qui littéralement veut dire un petit torrent, ou une espèce de grue d'un oiseau migrateur. C'est pas une insulte, hein. C'est un oiseau migrateur qu'on trouve là-bas, un oiseau nomade qu'on trouve en Mongolie. C'est une très grosse voix. Là, j'ai fait en fait un double bourdon. Mes cordes vocales, elles sont à cette hauteur-là. Oh. Et vous, ce que vous entendez, c'est oh. Quelque chose, une octave en dessous, qui vibre simultanément à celle de mes cordes vocales. C'est en fait mes fausses cordes vocales, ce qu'on appelle les bandes ventriculaires. Ce avec quoi, en gros, on se racle la gorge comme ceci. Je les fais vibrer simultanément. Et là, j'ai en fait un double bourdon, au-dessus duquel je vais moduler des harmoniques en ouvrant et en fermant ma bouche pour monter dans les aigus et descendre dans le grave et libérer aussi un certain nombre de résonances. Donc si on écoute bien et si là quelqu'un veut s'amuser en direct à faire une analyse spectrale, il va voir qu'il y a au moins 5 à 6 superpositions en fait simultanées.
Tu as contribué hein, du coup, à l'inscription de cette façon de chanter au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tu enseignes aussi ce chant depuis une quinzaine d'années, un peu plus. Est-ce que c'est une manière de chanter qui a gagné en popularité depuis que toi tu l'as mis un peu plus en avant?
Sans doute. Effectivement, au moment où moi j'ai commencé à apprendre cette musique, donc j'ai eu la chance d'être encadré par le gars vu à la télé, hein, Trang Quangai. Il est devenu le tuteur de mon master et pendant quelques années, j'allais tout le temps au Musée de l'Homme à Paris dans son bureau. lui était un peu le point de ralliement de tous ces aficionados du chant diphonique mongol, Tuva et d'autres formes vocales connexes. Il connaissait beaucoup de monde dans le milieu aussi de la musique traditionnelle. Je voyais bien que c'était déjà l'intérêt en fait de spécialistes et une niche en fait vraiment musicale. Il fallait déjà avoir envie de s'intéresser à ces sonorités-là qui pour le coup peuvent paraître bizarres pour certains. Et en fait, à l'époque, c'était quand même assez rare de trouver des concerts de musique trad, de Tuva, de Mongolie. Il y en avait, mais il y avait assez peu de groupes en fait qui tournaient, parce que déjà c'est loin. Tuva, c'est en Sibérie, dans le sud de la Russie. La Mongolie, voilà, c'est juste en dessous. C'est à presque 10 000 km en fait de chez nous. Donc il y avait Unurtu qui tournait, il y avait Yatra, effectivement, dans les années 90. Et puis voilà, vers la fin des années 90, début 2000, il y avait Ekshiglen, Altay Rangay pour les groupes de musique mongole et quelques autres, mais c'était pas, il y avait pas autant de popularité qu'avec le reggae par exemple, enfin voilà, et ou la salsa. Moi j'ai commencé à rentrer dans une asso qui s'appelait Tamga, qui était une asso franco-mongole basée en Bretagne. Je suis devenu bénévole et je me suis retrouvé à organiser des petits concerts, des petits stages autour du chant diphonique, sans savoir que j'étais en fait avec les musiciens d'Ekshiglen et d'Altay Rangay qui étaient déjà des stars en fait de la musique trad mongole pour l'époque. Et ces gens-là du coup m'ont beaucoup aidé pour commencer à comprendre ce milieu, cette musique. J'organisais des concerts pour eux. Et c'est petit à petit, en fait, en commençant mes allers-retours vers la Mongolie, depuis l'été 2004, en fait, ça, je vous parle de ça, c'était en 2002-2003, pendant deux ans. À partir de 2004, j'ai commencé à aller en Mongolie. Depuis, j'y suis allé presque chaque année, donc ça fait un certain nombre de voyages qu'au bout de 20, j'ai arrêté de compter. J'ai commencé à rencontrer les maîtres mongols, vraiment les principaux transmetteurs de cette musique, Tsarendava dans les steppes de l'Altaï et Otsurin à l'Université des Arts et de la Culture, et puis d'autres maîtres qui m'ont pas transmis directement la technique vocale, mais qui m'ont transmis vraiment l'esprit de cette tradition. Il y a un Tuva qui habite dans l'Altaï mongol, qui habitait Feu Papizan Badar, que j'ai côtoyé pas mal d'années, un autre maître, voilà, Davajav, Toivgo, et évidemment Sengedorch, et tous ces musiciens que j'ai côtoyés pour mes recherches ethnomusicologiques, mais aussi pour ma curiosité d'apprenti diphoneur, apprenti ethnomusicologue, m'ont beaucoup appris sur l'esprit de cette tradition, dans ce qu'elle a de connexion à la nature, à la vie nomade. Et ça m'a beaucoup nourri en fait, à la fois en tant qu'apprenti chercheur et apprenti musicien. Au bout d'un moment, en fait, voilà, rapidement, je sentais que moi j'avais la chance de pouvoir aller en Mongolie. Je revenais ici de par ma position d'apprenti chercheur en ethnomusicologie. Je commençais à produire des connaissances, de la théorie sur leur musique. Qu'est-ce qu'ils avaient en retour au final ? Me voir revenir l'année suivante, je parle un peu mieux le mongol. J'arrive un peu mieux à diphoner. Et en fait, j'étais un peu gêné parce que les musiques du monde, les musiques trad, on a un appétit de plus en plus grand pour ces musiques, il faut le dire. Elles n'ont jamais été autant diffusées que dans ces 20-30 dernières années. C'est un peu comme l'histoire du chocolat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une éthique aussi à avoir avec. Elles nous viennent ici, mais au final, eux, qu'est-ce qui se passe pour eux concrètement sur place ? Moi, je me suis dit, voilà, je sais déjà organiser des concerts, ben, je vais créer une asso, Route Nomade, voilà, en 2006, pour pouvoir faire venir mon maître et qu'il parle lui-même dans sa propre langue, avec sa propre vision autochtone des choses, de sa culture, de sa musique. Et donc c'est comme ça que j'ai invité Tsarendava et son fils Tsot Gerel pour une centaine de concerts, plus d'une trentaine de stages de masterclass entre 2006 et 2013. J'ai invité les autres maîtres que j'ai cités aussi quelques fois, ou une fois pour certains. Et puis ensuite, on a ouvert le réseau qu'on a monté au niveau national français et maintenant à l'international, puisque Route Nomade travaille avec plus de 40 artistes mongols dans 20 pays. On a pu en fait commencer à développer un réseau pour les jeunes générations, les nouveaux groupes, les nouveaux projets. Et on peut amener aussi des formes plus rares de musique traditionnelle mongole maintenant. En fait, entre 2006 et 2009, on invitait les maîtres, on faisait des stages. Je voulais vraiment inviter cette génération un peu des anciens pour vraiment transmettre cette vision typiquement mongole en fait du chant diphonique du homi versus le côté un peu édulcorés, chamanicaux, yoga du son, méditativo, tout ce que tu veux, où il y a beaucoup de mélanges et de syncrétisme qui sont parfois pas la réalité autochtone, avec des gens qui parfois se recommandent en fait de cette musique en disant ça vient des chamans mongols, ça n'a rien à voir en fait avec cette musique. Et malheureusement, on doit faire avec ça et nous valoriser une musique de berger en connexion avec la nature, en toute simplicité. Et donc je voulais montrer une autre vision vraiment autochtone de cette musique et pas édulcorée à travers les syncrétismes du New Age, etc. Je vais un peu vite là-dessus, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fait, à partir de 2009, trois ans après la création de Route Nomade, on a vu nos concerts jusqu'à présent, hein, jusqu'aux dernières tournées qu'on a montées cette année, sold out en fait, plusieurs semaines avant l'arrivée des musiciens. C'est presque systématique. Et les stages aussi de formation vocale, en fait, souvent qui affichent complet depuis plus d'une douzaine d'années maintenant. Ouais. Tout ça aussi, c'est grâce aux efforts qu'on mène. Je dis on parce que Route Nomade, il y a eu des copains avec qui j'ai commencé ça, des membres de la famille aussi qui nous ont aidés, mais aussi, surtout, depuis 2010, Nomindari Chakdarsuren, qui est aussi ma moitié dans la vie, qui travaillait à l'époque à la Commission nationale de la Mongolie pour l'UNESCO, qui s'occupait justement d'inscrire toutes les traditions musicales, et on a travaillé ensemble à inscrire le chant diphonique, le Khomi mongol, sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010. Et c'est vraiment avec elle qu'on pense tous les projets, qu'elle fait toute la coordination avec les artistes pour faire en sorte qu'on puisse choisir les bons musiciens, qu'eux comprennent l'état d'esprit dans lequel on travaille. Et moi ensuite, je m'occupe évidemment de monter la tournée sur place, et puis derrière on a Rythmatique, Charlène Pré à l'administratif, qui fait en sorte que on soit dans les clous administrativement jusqu'au bout pour que tout se passe du mieux possible.
Yeah.
Aujourd'hui dans Chant Libre A, saison 3, épisode 7, c'est Joanie Curtet qui nous accompagne en Mongolie, à tout va ailleurs aussi, hein, et qui nous faisait entendre tout à l'heure un extrait de son propre groupe, c'est ton groupe Meirane en compagnie, et puis à l'instant une très forte influence issue d'une anthologie dirigée par qui ? Bah, par Joanie évidemment. Quelques mots sur Meirane et puis sur les influences que vous avez eues.
Ça a été créé en 2009 avec le percussionniste Milad Pasta, puis un peu plus tard avec la chanteuse Maria Laurent. Pour moi, c'était la synthèse en fait de toutes ces influences qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire le côté guitaristique avec Shakti, Titi Robin, etc. Même si j'ai développé un jeu différent. Là, dans l'extrait, il n'y avait pas de guitare, je jouais de la vielle à cheval de façon rythmique. Mais dans les autres titres, il y a beaucoup de guitare, une guitare très voyageuse, inspirée de tous mes voyages et mon parcours. Et évidemment, les chants de gorge, la diphonie, qui arrivent ici pour nourrir en fait une fusion imaginaire. Ce sont des créations, des compositions au carrefour en fait de nos rencontres. Donc pour nous, Meirane, c'est une musique typiquement rennaise, là où les musiciens venus des quatre coins de France et de Navarre ou du monde peuvent se retrouver, se rencontrer et jouer en fait. Et y a de la world music à Rennes. Meirane en fait partie. C'était au carrefour, voilà, de la Perse, de la Mongolie, de l'Europe, de l'imaginaire, en fait. Enfin, vraiment le fruit de notre rencontre. Le trio a fait trois albums, dont deux produits chez Buda Music et en distribution internationale. Et donc, on joue en France, parfois aussi à l'étranger. Et maintenant, on continue notre route depuis trois ans avec la percussionniste Anne-Laure Bourget, qui est basée en région nantaise. Ça a toujours été comme ça, le carrefour compositionnel de nos influences respectives. Et évidemment, le homie que j'intègre là-dedans, c'est aussi l'inspiration de différents maîtres, de différentes tendances en fait musicales. Et donc dans les deux extraits, on en a écouté un du maître Sengedorch en fait, qui est un enregistrement de collectage que j'ai fait auprès de la rivière Bouyant, qui est une rivière dans l'Altaï mongol. Il joue une mélodie qui est liée aussi à ce pays natal de la province de Khoft dans l'Altaï et autour de cette rivière que j'ai enregistrée à côté de la dite rivière Bouyant, la fameuse rivière dite bienfaitrice. Et Sengedorch est un musicien que j'ai beaucoup côtoyé, qui m'a beaucoup aidé dans mes collectages en fait en Mongolie. Et l'autre enregistrement en fait de Papizan, c'est un enregistrement qui commence par du Dakarila. C'est Dakarila en Touva, ça veut dire le Kharkila de montagne. C'est un peu en écho avec la démonstration du style grave profond que j'ai fait tout à l'heure. Pour moi, c'est le maître Touva, un Touva de Mongolie, pas de Fédération de Russie comme Unurtu et Yatra, un Touva de Mongolie qui, pour moi, parmi tous les diffoneurs que j'ai rencontrés en Mongolie, j'ai rencontré plus de 400 musiciens en fait à travers tous mes collectages, toutes techniques et styles confondus, c'est sans doute l'un des hommes les plus connectés à la nature que j'ai jamais rencontré. Donc il commence par ce Khalkhila de montagne, et ensuite il fait un Touva Kojmak, qui est une sorte de mélange dans le style Touva de différentes techniques diphoniques, où il nous chante, voilà, je mets mon homi sur mon dos, je le mets dans ma besace, et puis ensuite il fait une technique de homi, je mets mon seget, donc le style aigu, harmonique, sur mon dos, je le mets dans ma besace, il fait une mélodie, etc. Et c'est une chanson qui permet justement d'improviser et de faire entendre les différentes techniques diphoniques. Ça aussi, c'est un collectage que j'ai fait chez lui, en fait, dans la province de Bayan-Olghi, dans l'extrême ouest de l'Altaï mongol. Et ce sont des enregistrements qui sont sur la fameuse anthologie du homi mongol que j'ai produit avec Nomindar et Chakdar Suren à travers Route Nomade et en licence avec Buda Music, suite à la fameuse inscription de cette musique à l'UNESCO, où je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas d'outil de compréhension générale de cette musique. Et donc on a décidé d'en créer un avec nos propres moyens. Et en fait, cette anthologie est devenue un outil de référence à l'étranger, comme en Mongolie. Ça a eu un impact assez considérable en fait dans la transmission de cette musique. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des jeunes qui faisaient partie des familles, des musiciens de cette musique, qui ne s'intéressaient peut-être pas forcément à ça et qui s'y sont mis parce que le grand-père était en photo sur la pochette, ou parce que ils ont découvert que dans leur région il y avait quelqu'un qui a fait du chant diphonique dans les années 80 ou les années 70, et ça leur a donné envie de s'y mettre, pourquoi pas eux aussi. Et la liste des anecdotes sur la transmission, elle est longue, mais voilà, ça c'est la casquette à la fois ethnomusicologue, producteur, et tout ce qu'on peut faire pour valoriser, sauvegarder le patrimoine culturel musical de Mongolie avec les activités de Route Nomade. Et suite à la production de ce disque, il y a eu plusieurs artistes qui nous ont demandé de faire leurs propres albums, qu'on a tout aussi sorti chez Buda Music, notamment Hosokton, qui fait partie du top 5 international du chant diphonique mongol aujourd'hui, qui était venu au festival No Border en 2016 à l'époque au Quartz, et qu'on a réinvité en tournée en Europe plusieurs fois, ou le soliste Touva Batsur Dorch, en fait, avec qui j'ai composé un duo sous le nom de ce musicien, et on a sorti un album en 2023, voilà, et ce sont des albums qui ont été salués par la critique à l'international, et donc on a bien vu là aussi qu'il y avait un engouement derrière notre activité, derrière évidemment ces musiciens, et leur art qu'ils portent à merveille.
Terminer cette balade sur les routes nomades avec son directeur artistique de Route Nomade, Joanny Curtet. On va aller vers ce qui va t'occuper bientôt. Alors, tu es toujours occupé, évidemment, on l'a bien compris, à travers toutes tes activités, aussi bien en tant que compositeur, ethnomusicologue, enseignant, et puis musicien. Donc tout ça se mêle harmonieusement, bravo. Mais on va aller vers la fin de la discussion dans Chant Libre A, avec un livre important sur la musique de film, et puis le fait que tu en réalises aussi depuis quelques années, et qu'il y aura bientôt, très bientôt, un ciné-concert pour toi, Joanny.
Je me suis passionné pour la musique de film quand j'étais en fait en études à l'université Rennes 2. Il y avait ces fameux cours en amphi avec Gilles Mouelic sur la musique de film, l'histoire de la musique de film. J'étais absolument fasciné. C'est la période aussi où j'ai commencé à m'intéresser à des films comme Dead Man de Jim Jarmusch, BO composé un peu en jouant en direct avec sa guitare par Neil Young, une référence un peu, voilà, mythique, voire mystique, hein, et un peu à part dans la manière de composer la musique de film. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette approche, parmi d'autres, évidemment. Et donc, j'ai toujours aimé écouter de la musique de film. Pour moi, c'était un peu un rêve de gamin d'avoir un rapport musical à l'image un jour. Je savais pas du tout comment rentrer dedans. Et depuis des années, avec Route Nomade et avec ma démarche artistique, j'invitais beaucoup de projets à venir se produire en France et en Europe. Mais il n'y avait pas beaucoup de retours dans l'autre sens où des Mongols me disent « Bah tiens, fais quelque chose avec nous ou viens jouer avec nous. » Je me posais pas trop la question, mais je sentais que j'aimerais bien un jour qu'il se passe quelque chose. Et donc, il y a une jeune réalisatrice, Zoljargal Pulevdash, qui un jour me demande en fait de faire la BO de son premier long métrage. Long métrage qui est sorti en fait en 2023, qui s'appelle Si seulement je pouvais hiberner, et qui a été dans les 75 ans d'histoire du festival de Cannes, le premier long métrage mongol à rentrer dans la compétition officielle. Alors on pourra se demander pourquoi, en tout cas pour nous, alors que le film a mis un certain temps à se faire, on savait pas du tout qu'il connaîtrait en fait ce succès-là. Il était dans la sélection Un certain regard. Ensuite, il a été diffusé en sortie nationale dans plus de 10 pays dans le monde. Pendant 4 ans, il a fait le tour du monde dans de nombreux festivals, il y a eu de nombreux prix. C'était en fait une expérience incroyable. Moi, évidemment, je ne savais pas du tout qu'il y aurait toute cette histoire. Ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'une artiste mongole me demande de collaborer artistiquement avec elle et que je n'étais pas à la casquette production pour une fois. Et donc, j'étais beaucoup touché. Et donc je lui ai livré une musique vraiment sensible en lien avec tout ce qu'elle défend dans son film sur le plan social, politique. Les médias ont dit que c'était une jeune Ken Loach en fait du cinéma mongol pour tout ce qu'elle dénonce en fait autour des problèmes d'écologie en fait et de pollution face à l'exode des nomades qui s'installent et s'entassent dans les fameux quartiers durs tout autour d'Oulan-Bator et du problème pour loger tout le monde et de vivre en harmonie en fait dans cette vallée qu'est Oulan-Bator, à la fois vivre en yourte, vivre en appartement et de faire en sorte que tout le monde puisse se loger en fait sereinement et que c'est compliqué quand on n'a rien. Quand on arrive du nomadisme et qu'on s'installe dans une ville et que la ville, en fait, ne fait pas grand chose pour vous, pour que vous puissiez vous chauffer et vivre dignement, en fait, dans ces quartiers. Et donc, ce film, c'était aussi un cri, en fait, social de ce qui se passe actuellement en Mongolie. On a toujours l'image de la steppe verte, des yourtes blanches et du ciel bleu. Mais en fait, il se passe bien d'autres choses, notamment dans cette capitale qui est assez incroyable. Et donc j'étais très content de servir aussi tout le propos de ce film et d'accompagner une autre image de la Mongolie que je connais aussi très bien puisque j'ai vécu un an aussi complet à Oulan-Bator. Et j'ai décidé de faire cette musique avec un musicien mongol basé en France, Mandar Jargal, qui joue la vielle cheval et qui fait un peu de chant de gorge avec moi. Et puis un contrebassiste qui habite à Angers, qui s'appelle Cam Mélien, qui est l'ancien contrebassiste de Lojo, justement, pour faire le lien entre mes influences world de l'époque et la claque que je m'étais pris adolescent en voyant ce groupe à l'époque. Et puis la rencontre de la Mongolie plus tard. C'est une musique qui est très instrumentale, mais il y a un peu de diphonie dedans. Après avoir édité cette musique chez Buda Music aussi, c'est sorti en disque et c'est disponible partout à l'international. On a décidé de monter la version ciné-concert. Je serai en résidence du 30 mars au 2 avril prochain au Castel d'Eau à Uzel, lieu qui nous accompagne du coup pour monter ce projet. Et la première mondiale, entre guillemets, à Uzel, au Castel d'Eau, le 3 avril. L'idée, par rapport à d'autres ciné-concerts où on créer une musique sur des films libres de droit anciens ou sur des classiques en fait du cinéma. Là, c'est que c'est en fait un film encore actuel avec la BO en direct avec le compositeur et les musiciens qui ont enregistré la BO en live quoi. Voilà. Et on espère que ça suive ensuite en tournée la saison prochaine.
On pourrait discuter ou entendre Joanny Curté pendant des heures et c'est vrai, on pourrait vraiment le faire. On va pas le faire parce qu'on n'a qu'une heure aujourd'hui dans ce champ de livre A, mais vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus encore sur les aventures de Joanny Curté sur routenomade.fr, sur la musique de Mongolie, de Touva, sur le chant diphonique, sur les 20 ans de cette structure Route Nomade, et puis aussi pour écouter d'autres musiques. On n'aura entendu que des extraits dans l'émission, et on termine d'ailleurs avec le nom de ce film et ce film qui n'est pas du tout possible d'imaginer que tu ferais la même chose. Toi, tu n'as pas du tout envie d'hiberner, en fait, c'est pas possible ça.
Non, mais en tout cas, de défendre cette cause et de l'accompagner un maximum, oui.
Merci beaucoup, Joanny. Merci à Clarisse Méraud, à Antoine Blanchet, à la Bibliothèque des Champs Libres. On se retrouve dans un mois, comme d'habitude, sur le dernier vendredi du mois dans Le Grand Tout pour Champs Libres A. Merci et à bientôt.
Merci, Baerte.
Merci d'avoir écouté cette émission Champs Libres A, saison 3, épisode 7. On se retrouve lundi pour une émission conventionnelle et puis à la fin du mois d'avril, ce sera l'épisode 8 de la saison 3. Bon week-end sur Canal B ou ailleurs. Ciao !